Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous. Au micro, Pierre-Paul Delvaux, pour poursuivre notre lecture cursive de l'Évangile selon Jean, en compagnie du Père José Willibald Michaud. Père José, bonjour. Merci de me recevoir chez vous, à Maritsou. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 2 de l'Évangile selon Jean. Pour mieux en profiter, chers auditeurs, prenez donc le texte à côté de vous, de quoi noter peut-être, et n'hésitez pas à vous rendre sur le site de RCF pour réécouter cette émission. Parce que nous souhaitons que notre échange fasse écho dans votre vie. Un bref rappel avant d'entrer dans le chapitre 2. Nous avons laissé de côté le prologue grandiose et très théologique pour la fin de nos entretiens. Nous restons avec une première image, celle d'un vieil homme, Jean, qui a longtemps médité son vécu avec Jésus et avec l'Église naissante. À côté de lui, un lettré qui recueille les paroles du disciple dans une langue grecque de bonne tenue. Première image. Deuxième image, en deuxième partie du chapitre 1, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. Et là-dessus, on voit Jésus qui marche. Jésus qui marche et qui appelle les premiers disciples, André, Simon-Pierre, Philippe et Nathanaël. Et aujourd'hui donc, nous abordons la suite, une série de signes. En fait, les chapitres 2, 3 et 4 vont être constitués d'une série de signes. Il y aura les noces de Cana, les marchands du temple, Nicodème, au chapitre 4, la Samaritaine, et le chapitre 4 se termine par une guérison à Cana.
Oui,
encore.
D'accord.
Aujourd'hui, donc, le chapitre 2. Et le chapitre 2, en fait, comporte trois parties. D'abord, les noces de Cana en Galilée. Ensuite, l'épisode des marchands du temple à Jérusalem. Et la fin du chapitre où l'évangéliste souligne que la foi ne suffit pas et que Jésus connaît le cœur de l'homme. Je vous relis tout ce chapitre 2. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux servants « Quoi qu'ils vous disent, faites-le. » Il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune deux à trois mesures. Jésus dit aux servants « Remplissez d'eau ces jarres », et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit « Maintenant puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des servants qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère et ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leurs tables. Et il dit aux marchands de colombes, « Ôtez tout cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévorera. » Mais les Juifs prirent la parole et dirent, « Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Alors les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, tu le relèverais en 3 jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi. Et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem durant la fête de Pâques, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. Mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous. Il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme. Il savait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme. Père José, j'ai dit dans mon introduction à quel point ces deux scènes sont très contrastées. Nous viendrons à la fin du chapitre plus tard. Pourquoi ce contraste Cana, les noces d'une part, et puis Jésus qui chasse violemment les marchands du temple.
C'est vrai. C'est vrai, là, il y a un contraste qu'on ne peut pas ignorer. Je voudrais commencer par l'épisode de Cana. D'abord, c'est 3 jours après, vous l'avez dit. Mais ce serait, ces 3 jours après, le 7e jour après la chronologie de Jean. Et rappelons-nous le goût de Jean pour les rythmes septénaires. L'épisode de Cana se situerait donc au bout de la première semaine. Et c'est ici aussi qu'est mentionné pour la première fois le thème de l'heure de Jésus, qui reviendra plus tard en 7:30 et en 8:20, et au cours du dernier repas de la grande semaine en 13:1 et 17:1.
En fait, il dit 3 fois dans l'Évangile « Mon heure n'est pas encore venue ». Et puis, très loin dans l'Évangile, il dit « Mon heure est venue maintenant ». Et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que cela veut dire « Mon heure n'est pas venue » C'est trop tôt
Sûrement, mais le thème de l'heure est très important chez saint Jean. L'heure, pour saint Jean, c'est l'heure de la manifestation en clair de Jésus, de la signification de ce qu'il est. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que la mère de Jésus semble vouloir anticiper son heure. Et Jésus ne proteste pas, elle dit simplement « faites tout ce qu'il vous dira ». Donc il n'y a pas de réponse directe, mais des réponses signifiantes. Mais voilà, je dirais, une semaine après le début de l'Évangile, la fin de la première semaine, et Cana est indiqué par l'Évangile en Galilée. Et la Galilée est la terre des païens, une terre dont on se méfiait, où la population était mélangée, ambiguë. Ce sont des exilés qui sont rentrés de Babylone, mais qui ont perdu pas mal de judaïté. Donc, c'est une région suspecte. Alors, des noces. Saint Jean passe tout de suite, il y a eu des noces. C'est un thème fréquent dans la Bible, surtout chez les prophètes, ou encore dans le Cantique des Cantiques. C'est le thème de la fête humaine et de la fête de l'amour, je crois. La mère de Jésus s'y trouvait, c'est la première fois que Jean mentionne sa mère. C'est la première fois. Mais c'est elle qui, la première, en maîtresse de maison avertie, constate la défaillance du vin. Défaillance du vin de la vie, défaillance de l'amour dont il est le signe. Il y a un très beau texte dans Isaïe chapitre 5, versets 1 à 3. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais donc, c'est la mère de Jésus qui alerte son fils. La réponse de Jésus fait problème. Elle peut choquer même. Femme, en quoi cela nous regarde-t-il ? On peut traduire ça de façon différente. Femme, l'appellation n'a rien ni de méprisant ni d'incorrect. C'était une appellation courante à l'époque, d'appeler, au lieu de dire madame, on dit femme. Et elle reviendra, cette appellation adressée à Marie, au chapitre 19-26, lors de la crucifixion, au pied de la croix. Jésus dit « Femme, voilà ton fils. Voilà ton fils. » Et sous la plume de l'évangéliste, y aurait-il un rappel de Genèse 2, la création de la femme, appelée Isha en hébreu à ce moment-là? Mais est-ce que Jean suggère, mais très délicatement, Marie comme la nouvelle Ève ? On peut se le demander, parce que, ça c'est une chose qui m'a toujours été très chère, dans le Sumérien ancien, donc 2 ou 3 000 ans avant notre ère, le signe cunéiforme Geshti, c'est-à-dire la vigne, l'arbre de la vie, Gesh c'est l'arbre, Ti c'est la vie, et ce signe cunéiforme incluait dans sa graphie le symbole féminin. Il y a une symbolique du féminin qui est dans le signe et dans le mot arbre de vie. Donc, dès les origines, on sent que la tradition sumérienne, sémitique, liait la femme à la vie et à la vigne qui en était le signe. Je crois qu'on peut rappeler ça.
Ce qui est frappant dans ce petit épisode, ce petit échange, c'est la brusquerie de Jésus.
Oui.
Et en même temps, cette douce obstination de Marie,
oui,
qui fait comme si elle avait déjà obtenu quelque chose.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
À mon avis, c'est même très intéressant, Marie semble mieux connaître la sensibilité de Jésus que lui-même. Elle le devine. Elle le devine avec une tranquille assurance. Je crois que c'est le signe de l'intimité profonde qu'il y avait entre eux. Oui, Jésus répond, « Mon heure n'est pas encore venue, nous allons revenir à l'heure, et faites tout ce qu'il vous dira. » Les deux choses sont liées. Marie anticipe-t-elle ici l'heure de Jésus ? C'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'elle anticipe ? Ou est-ce qu'elle devine ? En tout cas, elle est sûre d'être exaucée.
En tout cas, nous pouvons retenir que des gens comme Marie, profondément intérieurs, pourraient-elles changer le cœur de Dieu ?
Ah, mais ça, je crois que nous pouvons tous changer le cœur de Dieu.
C'est vraiment un message pour toute l'humanité, cela ?
Ah, tout à fait. Ça, j'aime bien cette question, parce que je trouve assez souvent dans l'Ancien Testament, nous avons des textes qui évoquent ce dialogue, cette lutte avec Dieu, au bout de laquelle Dieu cède. Il y a le grand marchandage d'Abraham à propos de Sodome. Il y a au moins 5 ou 6 épisodes très intéressants à ce point de vue. Mais nous pouvons, je crois, c'est votre mot, changer le cœur de Dieu. Et dans l'Évangile, Jésus dit « Priez jusqu'à avoir le sentiment de lasser Dieu, mais tenez bon, c'est vous qui aurez raison. »
C'est ça, il y a une obstination en quelque sorte,
Mais ça, je crois, dans la prière, cette sorte d'espérance contre toute espérance est fondamentale.
Nous allons en profiter de cette parole, Père José, pour faire une pause musicale avec un autre père qui nous vient de la communauté de Wavremont.
Ah, d'accord.
Sur RCF, nous continuons notre entretien avec le Père José Willibald Michaud. Entretien qui est une lecture cursive de Saint Jean. Nous sommes en pleine noce de Cana. Nous avons vu Jésus répondre un peu brusquement à sa mère et Marie, sa mère, sûr qu'elle va obtenir quelque chose, suggère au servant d'agir. Alors, Père José, il y a une action là.
Ah oui.
Les servants remplissent les jarres. Que dire de ce petit morceau de scène?
C'est l'évocation d'une fête défaillante qui aboutit à sa plénitude. La fête est menée jusqu'à sa plénitude par la simple parole de Jésus. Jésus dit plusieurs fois dans le discours d'après la scène « Que votre joie soit parfaite ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Que votre joie et votre fête soient parfaites.
Et donc, il va, en quelque sorte, accomplir cette fête. Il y a des détails qui ne sont pas insignifiants. C'est une quantité considérable.
Oui. Les
spécialistes disent qu'il y avait à peu près 600 litres.
Oui, 600 litres. Mais donc, retenons surtout le chiffre 6, hein, qui est le chiffre de l'inachèvement. Il y a une plénitude, mais ce n'est pas la totalité.
En outre, Jésus ne touche pas l'eau,
non.
Uniquement les serviteurs.
Oui. On ne sait même pas s'il l'a goûté lui-même.
Et le commentaire de l'évangéliste est très important ici, c'est le premier signe.
Oui.
Alors, certains spécialistes disent que l'évangile de Jean, c'est le livre des signes.
Ah, sûrement.
Qu'avez-vous à dire sur ce mot « signe » ?
D'abord, il est celui qui emploie le plus le mot « séméion ».
En grec, « séméion » ?
Oui, « séméion ». Jean n'emploie jamais le mot de « miracle ». Le miracle étant le prodige qui abasourdit. Jésus introduit à une vérité nouvelle.
Le signe introduit à une vérité nouvelle.
C'est ça.
Ce n'est pas destiné à éblouir, ni à capter.
Non, ni à convaincre.
Ni à convaincre.
Jésus répugne à obliger les gens à croire. Il y répugne. Il laisse cela à la responsabilité et à la spontanéité du cœur.
Et pourtant, toutes ces paroles, au fond, comme il est dit dans un poème de ma connaissance, cherche un cœur dans lequel il peut se poser, un peu comme un oiseau peut se poser sur la branche d'un arbre.
Ça. C'est un très beau poème.
Voilà. Ces signes s'adressent au cœur de l'homme.
Ah oui, tout à fait. À sa profondeur la plus radicale.
Et en tout cas, nous ne sommes pas du tout dans le prodige et dans la magie.
Absolument pas.
En fait, nous voyons également dans les autres évangiles à quel point Jésus répugne non seulement à une manipulation, mais répugne à saisir l'autre,
oui,
ou à être saisi. Quand un personnage dit « je sais qui tu es »,
oui,
il y a là une sorte de prise de pouvoir.
Ah, oui,
et
oui,
c'est probablement fondamental.
Ah oui, tout à fait. Et Jésus échappe à cette saisie, toujours. Je crois que l'expérience spirituelle est un dépassement du dépassement. On va de dépassement en dépassement et de dépossession en dépossession. Et ce n'est que lorsqu'on a accepté d'être dépossédé de soi-même et de ses certitudes que s'ouvre une vérité nouvelle.
Beaucoup de chercheurs, beaucoup de poètes, beaucoup de gens qui ont fait des expériences profondes.
Oui.
Je pense à Jorge Semprin qui revient sur son expérience des camps de concentration et qui dit finalement il est important pour pouvoir écrire, pour pouvoir dire quelque chose, de se déprendre de soi-même.
La déprise, la dépossession, la démaîtrise sont des mots très importants.
Mais dites, Père José, est-ce que ce n'est pas réservé à une sorte d'élite, cette déprise, cette dépossession ? Est-ce que c'est une invitation à tout être humain ?
Je crois que oui. Je crois que oui. Et que le dernier consentement est capital. Lorsque on dit « je remets mon être entre tes mains », c'est la dernière des possessions. Mais elle est radicale. Non, nous y sommes tous appelés.
Il est possible d'ailleurs qu'un certain nombre de gens vivent ça dans le quotidien de leur maternité, de leur paternité, de leur filialité, et qu'ils ne s'en rendent pas tout à fait compte, mais qu'effectivement, ils s'en remettent à la vie et à l'autre.
Je crois que les parents sont toujours dépossédés de leur première relation à leurs enfants.
Merci Père José, mais revenons un peu à cette noce, à ce repas. C'est peut-être la première noce que nous allons voir, mais l'évangile se termine par un autre repas.
Oui.
On peut faire le lien ?
Assurément. Assurément. La première semaine s'achève par un repas, la dernière semaine aussi. Et l'expérience de la résurrection se situe souvent dans le cadre d'un repas mystérieux. Chaque fois que les disciples croient retrouver Jésus, c'est dans le cadre d'un repas. Et le repas est quelque chose de très signifiant. Partager ce qui nourrit la vie...
Et c'est une expérience fondamentale et universelle, en effet.
Universelle.
Et donc, ce repas est une image du royaume ?
Oui.
Voilà une expression tout de même un peu mystérieuse, le royaume.
Le royaume, c'est l'aboutissement du désir de Dieu. C'est le moment où le désir de Dieu s'épanouit, où son désir rencontre notre désir et inversement.
Et c'est un moment d'harmonie, d'harmonie dans le mouvement.
Tout à fait, tout à fait.
Oui, oui. C'est là-dessus que nous allons nous quitter. Père José, merci de nous avoir éclairé sur cette première partie du deuxième chapitre, les noces de Cana. À dans 15 jours pour la suite de cette lecture cursive du chapitre 2 de l'Évangile selon saint Jean. Nous commenterons entre autres l'épisode où Jésus chasse les marchands du temple. Vous pouvez réécouter ces lectures cursives de saint Jean ainsi que les lectures cursives de saint Marc en vous branchant sur rcf.be. Je vous laisse maintenant avec des variations sur un choral de Scheidemann à l'orgue du monastère de Wavremont. Au revoir à tous, à très bientôt.